parler en langue? Parle plutôt l'allemand, c'est plus important. Le schwäbisch, le badisch. Il y a beaucoup d'hommes qui pourront te comprendre ainsi. Nous sommes détournés de tant de choses, de tant d'heures, de tant d'œuvres. Ah, oh, j'aimerais servir le Seigneur, j'aimerais aller en Afrique, aller en Asie, à Hong Kong. J'aimerais aller ici et là, faire cette œuvre. Quel est ton ministère, frère? Quel est ton ministère? Ah, je suis un cuisinier. Dans une conférence, ça c'est mon service. Quel service? De quel service parles-tu? Pourquoi est-ce que tu ne prépares pas une offrande pour le Père, pour sa nourriture, sa satisfaction? La chose la plus importante, nous ne voulons pas l'avoir. Mais les œuvres, nous voulons avoir beaucoup d'œuvres. Prêcher l'Évangile, donner un bon message. Quel est ton ministère? Mon ministère, c'est ceci, c'est cela. Quel est ton ministère? Mon ministère? Qu'est-ce qui est plus important pour le Seigneur dans l'Église à Éphèse? Les œuvres nombreuses ou le premier et le meilleur amour? Le Seigneur a dit, je connais tes œuvres. Elle avait beaucoup d'œuvres, que t'es bonne. Le Seigneur n'a pas dit qu'il n'aimait pas les œuvres, mais il l'a interrogé au sujet du premier amour. Le Seigneur n'était pas contre les œuvres, mais si le premier amour manque, alors même si tu fais tant d'œuvres pour lui, ce n'est pas important pour lui. Tu sais, accomplir une œuvre sans être connecté à ce premier amour, c'est 1 Corinthiens 13 qui nous l'a dit. Si tu peux prophétiser si bien, mais sans le premier amour, tu n'as rien. Si tu as une telle foi que tu peux transporter des montagnes, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Que vas-tu faire en transportant les montagnes? Où est-ce que tu vas les transporter? Les montagnes sont bien placées en Suisse. C'est bien le bon endroit pour les montagnes. Pourquoi est-ce que tu veux transporter les Alpes à Stuttgart? Il n'y a pas de place à Stuttgart pour les Alpes. Tu peux avoir une telle foi, mais sans amour. Même si tu donnes tout ton argent pour les pauvres, peut-être tu vas argumenter avec moi. Il faut donner tant de choses pour les pauvres. Demande à Bill Gates. Demande à la Fondation Clinton, toutes ces personnes riches qui ont tant donné d'argent en Afrique, sans amour. Est-ce que tu penses qu'ils ont fait cela par amour? Sans amour, cela ne sert à rien. Tout ce que nous faisons ne sert à rien. La vie de l'Église. Paul disait, le meilleur chemin pour bâtir son corps est l'amour. Si cela manque, tu peux être si capable pour donner de bons messages, faire des entraînements chaque année, deux fois par année, il y a des des trainings, 30 réunions, chaque année 60 réunions en tout, des entraînements, et en fin de compte, tout cela ne sert à rien. Sans amour, cela n'apporte rien. L'amour est cette expression de la vie. Nous parlons de vie, de vie, de vie. L'esprit, l'esprit, l'esprit. Mais où est l'esprit? En fin de compte, nous sommes tous dans les ténèbres. Si ce n'est pas produit par l'amour, est-ce que Paul n'a pas dit que le corps s'édifie lui-même par les grands apôtres? Non. Par les anciens? Non. Par tant d'œuvres? Non plus. Par tant d'entraînements? Non. Nous avons traversé toutes ces choses, nous avons expérimenté toutes ces choses. Nous n'avons pas appris cela. C'est pourquoi j'aimerais vous dire et vous témoigner, frère, je ne veux plus donner de messages. Je suis fatigué des messages. Je suis fatigué de donner des messages. Ne pensez pas que je vous donne un message actuellement. Non, je parle de mon cœur. Je n'ai plus de goût pour donner des messages, pour des explications bibliques. Vraiment, ce goût, je ne l'ai plus du tout. Plus du tout. Cela n'a plus aucun goût pour moi. Mais un fardeau dans le cœur pour l'accomplissement de la volonté du Père. J'aimerais gagner Christ. J'aimerais expérimenter la vie. Redonner la vie. J'aimerais le reconnaître plus encore. Comme Paul l'a dit, je veux ainsi je connaîtrai Christ. Autrefois, quand j'ai lu ce passage, je disais, mais Paul, tu ne l'as pas assez connu, pourquoi tu veux le connaître encore plus? Maintenant, je le comprends. Plus tu le connais, plus tu vas comprendre et tu vas saisir que tu ne le connais pas en profondeur. Je ne connais même pas mon propre cœur. Parfois, je m'effraie de ce qui est, ce qui se trouve dans mon cœur. Bon, dans 1 Corinthiens 8, Paul disait, si quelqu'un croit connaître Dieu, il ne connaît rien, comme il devrait le connaître. Si nous connaissons la parole, parce que nous avons lu et relu la parole durant tant d'années, je ne sais pas pendant combien de temps j'ai lu la Bible, et si nous disons que nous le connaissons, ne pensez pas que ce que nous avons reconnu dans le passé, c'est pas bien, mais c'est vieux. C'est certes peut-être bien, mais c'est vieux. Quand j'étais plus jeune, je me souviens de cette machine à écrire où je devais presser les touches. Et quand tu fais une erreur, aïe, tu as mal à la tête. Mais aujourd'hui, avec l'ordinateur, c'est très simple. Même en fin de compte, l'ordinateur fait tout à ta place. Même dans l'ordinateur, tu peux tout de suite reconnaître une faute parce que c'est souligné en rouge. Mais parfois c'est écrit juste et l'a directement transféré pour que ce soit encore plus juste. et réfléchis à ta place. Ne pensez pas ce que vous avez appris autrefois, que tout est juste. Ce n'est pas faux. Ce que j'ai appris au jardin d'enfants, à l'école enfantine, c'est bon. Je me suis beaucoup réjoui du temps que j'ai passé à l'école enfantine, parce que j'ai beaucoup joué. Mais ça, c'est le passé. Aujourd'hui, nous devons tous parvenir à maturité. Je ne veux pas dire que tout ce que nous avons appris autrefois est faux. Non, c'est simplement ça fait partie du passé. Oubliez ce qui est en arrière. Pour moi, autrefois, les maths, c'était 1 plus 1 égale 2. Alors, j'ai appris d'autres choses. Lorsque j'ai parlé avec Toby, cet expert de mathématiques, alors j'avais l'impression de devoir apprendre beaucoup de choses. Et même Toby a pu me prouver que 1 plus 1 ne fait pas 2. Je suis pas sûr que ce qu'il m'a dit est juste ou pas. Nous devons aller de l'avant, frères et sœurs. Nous devons savoir quelle est la volonté du Père. Maintenant, nous venons au livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui était sur le cœur du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse? L'Apocalypse, c'est certainement pas le chiffre 666, je vous assure. Le chapitre 13 n'est pas sur le cœur du Seigneur. Les sept trompettes, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Ce n'est pas pour nous. La volonté du Seigneur pour les chandeliers d'or, il veut avoir les chandeliers d'or. Il y a beaucoup d'œuvres. Je ne veux pas dire que nous ne devons pas gagner les hommes et prêcher l'Évangile, c'est bien. Certainement que c'est aussi important. Mais dans quel but, quand tant d'hommes sont sauvés, sont gagnés, et alors? Que ferons-nous avec tous ces croyants? Qu'est-ce que le Seigneur voulait faire? Il y a tellement de pierres, tout à coup, il y a un tas de pierres, on a gagné tellement de pierres. Mais en fin de compte, ils ne sont pas édifiés. Et même si tu es une pierre vivante, comme Christian vivant, comme Christiane, alléluia. J'aime ce frère. Je souhaiterais avoir tant d'énergie comme lui, mais je n'ai plus tant d'énergie. Certes, même si nous sommes si vivants, mais si nous ne sommes pas bâtis comme maisons vivantes, à quoi servent les pierres vivantes? Il y a de l'or partout. Mais le Seigneur désire exploiter cet or pour obtenir ses chandeliers, les battre, leur donner cette forme à partir d'une grosse masse d'or. Dieu aimerait obtenir un chandelier qui a une certaine forme. Il souhaite obtenir cela. Il est important de voir cela. S'il vous plaît, comprenez-moi juste. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus prêcher l'évangile. J'apprécie certainement que les frères et sœurs aient un tel fardeau, spécialement Feingen, pour l'évangile, c'est excellent. Mais pourquoi prêchons-nous l'évangile? Juste pour que les hommes soient sauvés, nés de nouveau? Est-ce suffisant? Non, ce n'est pas suffisant pour Dieu. Il aimerait bâtir la Jérusalem céleste. À la fin du livre de l'Apocalypse, nous ne voyons pas juste beaucoup de personnes qui sont sauvées, mais nous voyons une merveilleuse ville, une ville tout en or, bâtie. C'est si merveilleux. Avec un fondement, 12 pierres de fondement en pierres précieuses, c'est si merveilleux. Dieu désire bâtir tout son peuple. N'est-ce pas votre but aujourd'hui? Autrefois, j'ai vu des frères qui disaient Alléluia, nous sommes pour Christ et l'Église, Christ et l'Église. Avec le temps, ça ne s'appelle plus Christ et l'Église, mais un homme qui prétend être l'apôtre, il a un merveilleux service, et en fin de compte, il a remplacé Christ et l'Église avec l'apôtre, avec un grand A, et son service. Et aujourd'hui, ils sont tous brûlants pour le service, pour le ministère. Et malgré le fait que l'apôtre ne soit plus là, oui, mais son esprit est toujours près de nous. Waouh! Mon cœur est presque décédé quand j'ai entendu cela. Chers frères et sœurs, j'espère qu'à la fin de cet âge, nous ne sommes pas ainsi. Beaucoup pensent que j'ai quitté l'Église. Non, j'ai dit non, vous avez quitté son Église. Si c'est seulement l'Église, ça ne veut pas dire que c'est son Église. Chers frères et sœurs, si tu quittes le Seigneur, ou bien plus, si tu as quitté le premier amour pour lui, penses-tu que le Seigneur va rester? En fin de compte, à la fin de cette église, le Seigneur était à l'extérieur et toi tu es à l'intérieur. Et déjà au début, le Seigneur a averti, il a dit, je vais ôter le chandelier d'or. Si le Seigneur ôte le chandelier d'or, tu as le nom, mais comme Lemens l'a partagé, le chandelier a disparu. Alors pourquoi est-ce qu'il y a encore ce nom? Si je suis mort et enterré, alors mon nom est inscrit sur la pierre tombale. Ici est couché Johnson. Ici, J. Johnson. Mais je suis même pas là dans la tombe, mais je suis ailleurs. Le Seigneur est vivant. Il y a un jouet aux États-Unis, ça s'appelle Jack dans la boîte. Et si je vois Jake, tu t'appelles pas Jack, tu t'appelles Jake. Tu peux pas mettre Jake dans la boîte, dans une boîte, je vous assure. Vous ne pouvez pas mettre frère Jake dans une boîte, c'est pas possible, parce qu'il est vivant. Il va sauter. Il va sortir. Est-ce que tu penses que tu peux enfermer le Seigneur dans ton organisation? Non. C'est pourquoi nous devons le suivre, lui, pas lui qui te suive, toi. Tu aimerais obliger le Seigneur, tu dois rester ici dans cette église morte. Le Seigneur va te dire non. Au revoir, à jamais. Penses-tu que tu peux enfermer le Seigneur dans une église morte avec, tu peux enfermer le Seigneur dans une église tiède? Non, tu peux pas faire cela. Il est saint, il est juste, il est merveilleux, il est glorieux, il est vivant. Il n'est pas resté, même pas resté 3 jours complets dans la tombe. Au plus 25 ou 27 heures, il est resté. À la fin du premier jour, et déjà tôt le troisième jour, il est monté. Il ne pouvait plus sentir cette tombe. Il est allé au séjour des morts, hein, juste pour aller chercher la clé. Mais il a juste fait une courte visite. Nous aimons bien rester dans la tombe. C'est notre sabbat. Il en est ainsi. Nous devons voir clairement ce que le Seigneur aimerait obtenir réellement. C'est ce chandelier d'or. Nous l'appelons église, mais le Seigneur l'appelle un chandelier d'or. Pour nous, l'église est l'église. Ah, c'est une rencontre de tous ceux qui sont appelés en dehors d'eux. Alors on peut inviter, accueillir beaucoup de personnes différentes et se rencontrer. Les frères étroits, larges, longs, les libres, les évangélistes libres, les libres évangélistes, les charismatiques, les non charismatiques. Mon Dieu. Et il y en a un qui accuse l'autre, qui fait une division. Je suis maintenant célèbre pour être un diviseur. Est-ce que je suis un diviseur? Es-tu un diviseur? Oui, je suis un diviseur. Je suis divisé du monde. J'aimerais être séparé de la chair et du péché, de la mort. J'aimerais bien être séparé de toutes ces choses. Je ne suis pas un diviseur. J'ai été mis à la porte. C'est excellent. Je m'en réjouis. Tant que le Seigneur ne me met pas dehors, cela me suffit. Chers frères et sœurs, ces chandeliers d'or, c'est ça qu'il veut obtenir. Cela doit être inscrit sur nos cœurs. Le Seigneur aimerait obtenir quelque chose qui est tout en or. Si ce n'est pas en or, tu peux oublier. Tu peux oublier. Et cet or est si merveilleux. C'est un or merveilleux. Tu peux l'acheter seulement de lui. Tu ne peux pas l'acheter d'un apôtre ou d'un ancien. Tu ne peux pas acheter de l'or de quelqu'un qui ne le possède pas. Et celui qui l'a, il ne va pas non plus te le vendre parce qu'il n'est pas suffisant pour lui. N'était-ce pas l'attitude des cinq vierges sages? Est-ce qu'elles ont dit, oui, je vais te donner mon huile? Non. Elles ont dit non parce que cela ne suffirait pas pour nous. Si tu as cet or, si tu veux avoir cet or, va vers celui qui l'a. Celui qui en a tant, il peut te le vendre. À Laodicée, le Seigneur a dit, venez à moi, achetez de moi, si vous voulez avoir de l'or. Ne venez pas à moi, je ne suis pas un vendeur d'or. Moi-même, j'en ai besoin. Si tu veux venir à moi et si tu veux me donner de l'or, je vais dire bienvenue. Mais si tu viens vers moi et puis tu aimerais acheter de l'or de moi, je vais te dire, tu n'es pas au bon endroit. Va vers lui. Et l'onction. L'huile d'onction, acheter de l'huile. Qui a déversé de l'huile? Dites-le-moi. Qui est celui qui détient de l'huile? De l'huile d'onction, même d'un collyre pour voir, et même une robe blanche. D'où veux-tu obtenir cette robe blanche? N'est-ce pas le Seigneur qui est notre robe? Notre vêtement, le vêtement du salut, la robe de justice, la robe du sacrificateur, le vêtement sacerdotal. Nous avons revêtu Christ. De quoi veux-tu te revêtir? Ce nouvel homme qui est tout et en tous, c'est dans ce nouvel homme il y a Christ. Que veux-tu d'autre? Qui peut te donner un tel vêtement? Qui peut nous oindre les yeux, nous donner ce collyre? Qui peut nous donner de l'or? Qui a cette flamme de feu afin que nous soyons brûlants? Être brûlant, c'est bien, mais cela dépend d'où vient le feu. Ce ne doit pas être une flamme étrangère, ton propre feu. En fin de compte, où vas-tu finir? Tu es tout feu, tout flamme pour une œuvre, pour quelque chose. Non. Le feu doit venir de l'autel des holocaustes. Sinon, tu seras brûlant. Tu es zélé, mais pourquoi? Beaucoup sont très zélés, mais je dois demander, mais pourquoi sont-ils zélés? Le Seigneur a dit, le zèle de ta maison me dévore. Qu'est-ce qui t'a dévoré? Tu es plein de feu, plein d'énergie, tu es rempli pour Dieu, mais dans quel but? Quel était ton but en fin de compte? Est-ce que tu penses, quand le Seigneur est venu sur cette terre, que son zèle était juste pour sauver les hommes, pour qu'ils finissent pas dans l'étang de feu, et qu'ils aillent tous au ciel? Est-ce vraiment le but du Seigneur? Ou est-ce qu'il ne veut pas bâtir déjà Sion sur cette terre lorsque le Seigneur a sorti le peuple de l'Égypte? Dans quel but? Juste pour faire une marche dans le désert? Manger journellement de la manne? Boire de l'eau qui sort du rocher? Même pour entrer dans le bon pays. Pourquoi? Dans quel but veux-tu entrer dans le bon pays? Si tu demandes au Seigneur quel est l'endroit le plus important dans le bon pays, ne dis pas c'est la Galilée, ne dis pas Bethléem, ne dis pas à Dan tout là-haut ou à Tel Aviv. Non. L'endroit le plus important est Jérusalem. La ville du grand roi, Sion. Pourquoi est-ce que le bon pays est bon en Israël sans Jérusalem? C'est pourquoi Jérusalem est un endroit très chaud sur cette terre, un hotspot en anglais. Jusqu'à aujourd'hui. C'est la chose la plus importante. La ville, le monde est si grand, mais New York n'est pas la chose la plus importante. Regardez New York et San Francisco. C'est plein de déchets là-bas. Cela sent mauvais. Los Angeles. Oh mon Dieu. C'est la capitale de la pédophilie. Londres, Berlin, non, tous ces endroits pour Dieu sont sans importance. La terre est si grande. Qu'est-ce qui est plus important pour nous sur cette terre? C'est Jérusalem. Et quand le Seigneur reviendra, où est-ce qu'il va déposer ses pieds? Où est-ce qu'il va aller? Dans les Alpes? À Genève? À Neuchâtel? Zurich? Non. Ézéchiel nous a dit qu'il bâtirait, il rebâtirait son temple. C'est le siège principal du grand roi lorsqu'il reviendra. Il va y rebâtir son grand temple glorieux à Jérusalem. C'est l'accent, le focus, le point brûlant de toute la Bible. Chers frères et sœurs, si nous ne voyons pas cela, tu peux oublier Apocalypse. Si nous n'avons pas ce point, nous pouvons même laisser tomber ces sept épîtres aux églises. Pourquoi tu veux lire cela? Et maintenant, la question à nous tous est-ce aussi ton fardeau? Est-ce aussi ce qui préoccupe ton cœur? C'est la question. Là est toute la question. Chacun d'entre nous doit se poser cette question individuellement. C'est cette ligne dorée dans toute l'écriture. Depuis le début, c'est le fil rouge. Déjà au début, dans le jardin d'Éden, tu vois ce livre de la vie. Et en fin de compte, tu vois de nouveau cet arbre de la vie au milieu de la ville. Tu as aussi un courant de la ville, un courant de la vie. Et de ce courant sont sorties des perles et des pierres précieuses. Ou bien sont-ils perdus dans ce courant? Mais à la fin, ils sont rebâtis dans une ville glorieuse. C'est le centre de tout l'univers et le siège est ici sur cette terre, avec pour origine Dieu dans les cieux. Lui, il vient sur cette terre. Ne pense pas que cette terre n'est pas importante à ses yeux. Nous voulons hériter cette terre. Dans quel but? Pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi, lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, la première chose que Dieu leur a dit, si vous retenez mes paroles, si vous agissez en fonction, si vous retenez ma loi, alors vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Dieu désire obtenir un royaume. Son peuple devrait être une nation sainte, un peuple qui est sa possession. Nous devons tous être des sacrificateurs, des rois et des sacrificateurs. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas uniquement utilisé Moïse? Est-ce que Moïse n'est pas suffisant? Dites-le-moi, Théo. Moïse a eu besoin d'un accompagnant qui s'appelait Aaron. Moïse et Aaron. Moïse est celui qui dirige le roi. Aaron représente le sacerdoce. Et quand le peuple d'Israël, après 70 ans, est retourné à Jérusalem, qui les a conduits à Jérusalem? Philippe? Zorobabel. Josué. Et Zorobabel. Qui est plus important, Zorobabel ou Josué? Tous les deux. Et ces chandeliers d'or dans Ézéchiel, Zacharie 4, nous voyons deux arbres. Ces deux arbres représentent Zorobabel et Josué. Le Seigneur est-il uniquement le roi? Non, il est aussi le sacrificateur. Il est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est le roi, il est à la fois le roi et le sacrificateur. La Bible est toute inclusive. Le plan de Dieu ne se modifie jamais. Même dans Apocalypse, nous voyons qu'il veut faire de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Les deux choses sont importantes, le royaume et le sacerdoce. Les apôtres, Jean était un apôtre de Jésus-Christ. Non, il a dit qu'il est un frère dans Apocalypse. Il est même ton frère, ton proche. C'est la chose principale, chers frères et sœurs. C'est la chose principale. Et dans l'épître aux Hébreux, nous voyons quelle est la chose capitale, c'est que nous avons un ancien, non, nous avons un merveilleux frère, non, nous avons un souverain sacrificateur dans la maison de Dieu. C'est pourquoi nous voyons aussi aujourd'hui, c'est un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. L'accent est sur le Fils de l'homme qui marche au milieu des chandeliers d'or, pas celui qui marche dans le monde, non. De cet esprit, oui, ils ont été envoyés dans le monde entier, oui, c'est important, mais en tant que le Fils de l'homme, en tant que souverain sacrificateur, il marche au milieu des chandeliers d'or. Il sert dans le Saint des Saints, au milieu des chandeliers d'or, pour séparer, pour guérir, en fin de compte, à la fin de ces sept épîtres, il dit, celui que j'aime, je le reprends et je le châtie. Ces paroles sont des paroles qui châtient et qui reprennent, qui avertissent. Mais il fait cela parce qu'il nous aime et il veut nous guérir, il veut nous sanctifier. Il met en évidence, il expose cet état terrible de l'Église. Pas de notre état individuel, mais c'est les églises. Bien sûr, le Seigneur peut avoir des étoiles séparées, mais ce n'est pas son désir. Son désir, c'est d'avoir des chandeliers d'or. C'est important. Aujourd'hui, nous devons voir que le Seigneur bâtit avec nous des chandeliers d'or. N'est-ce pas la chose qui est en train de brûler dans vos cœurs? Vous savez, ce qui brûle dans le cœur de beaucoup de ceux qui nous entourent, le terrain, une ville, une église. Dites-moi sincèrement, dans Apocalypse 1 à 3, le Seigneur a-t-il parlé du terrain? Ou a-t-il plutôt accentué la condition des églises? Terrain, s'il vous plaît. Non. Mais à la fin, si nous accentuons le terrain, alors nous n'avons pas le véritable terrain, la bonne base. C'est un jeu de mots. J'ai vu tant de choses insensées se dire sur ce terrain. J'ai vu tant de corruption. Beaucoup de Nicolaïtes, Balaam, Jézabel, le monde, beaucoup de choses. J'ai vu tant de choses. C'est pourquoi le Seigneur souhaite aujourd'hui nous donner une vision claire afin que ce soit écrit même sur notre front pour pas que nous l'oublions. Il veut inscrire le nom de la ville de notre Dieu afin que tous ceux qui viennent dans l'Église deviennent des colonnes qui ensemble portent ce témoignage, cette arche dans le saint sacerdoce. Souviens-toi, seuls les sacrificateurs peuvent porter cette arche. N'utilise pas de char tiré par des bœufs. Même la force du cheval, le Seigneur n'aime pas cela. Et les jambes de l'homme, il n'en a pas besoin non plus, il l'a dit. Non. En fait, c'est le sens profond de cette épître. C'est pourquoi nous avons besoin de ce Fils de l'homme dans tous ses aspects différents. C'est pourquoi aussi, en fin de compte, au début de ces sept épîtres, le Seigneur s'est présenté en tant que ce Fils de l'homme au chapitre 1. Avec tous ces aspects, nous les revoyons comme au début, lorsque le Seigneur leur a parlé. Le Seigneur s'est présenté en tant qu'un tel Fils de l'homme qui marche au milieu des chandeliers d'or. N'est-ce pas merveilleux? Par exemple, à Philadelphie, c'est si positif. Il est le saint. Loué le Seigneur. Il aimerait avoir une église sainte. Il est le véritable. Il aimerait obtenir la réalité. C'est pourquoi nous accentuons ces 6 à 10 dernières années. C'est la nouvelle alliance. Est le temps de la réalité. L'ancienne alliance est ce temps de l'ombre, l'ombre des choses à venir, des images, et qui oriente vers Christ. Mais dans la nouvelle alliance, eh bien, nous laissons de côté tout ce qui est de l'ombre, oublier l'ombre, et saisir la réalité. La vérité, la réalité, la retenir. Pas expliquer de nouveau ceci, cela, en avoir l'explication. Mais si nous passons à côté de la réalité, nous n'avons rien. Nous avons peut-être la connaissance, mais dans quel but? Je sais ce que c'est que l'or, mais tu viens à la maison, je n'en ai pas. Il n'y a pas d'or. Mais je sais ce qu'est l'or, je sais que c'est cher, ça coûte cher. Et puis alors? Mais si tu n'en as pas? Nous vivons dans le temps de la réalité, n'est-ce pas? C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il est l'Amen à Laodicée. Et ensuite il dit qu'il a la clé de David. Et je crois que vous connaissez celui qui a la clé de David dans Ésaïe 25, voyant Éliakim. Ésaïe 25. Il a la clé. Si c'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Tu peux tout faire, tu peux t'opposer, mais tu ne peux pas ouvrir cette porte. Si le Seigneur le fait, alors c'est très simple. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'une grande puissance. Je n'ai pas besoin d'une grande puissance. Autrefois, quand j'étais jeune, j'aimerais faire cette œuvre, ceci, allons-y, j'étais tout feu, tout flamme. Alors j'ai besoin de beaucoup de force. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ta force. Aujourd'hui, je ne prie plus de la sorte car je n'ai plus de force. Non. S'il a la clé, c'est lui qui va ouvrir la porte et personne ne pourra la fermer. Même Satan pourra rien faire. Les puissances, les dominations ne pourront rien faire. Personne ne pourra le faire. Si tu connais un tel Christ merveilleux, eh bien, tu n'as besoin de rien d'autre. Quand Jésus était sur cette terre, il ne s'est pas fait de soucis. C'est le Père qui porte tous les soucis. Il s'est déchargé sur le Père. Personne ne vient à moi, a-t-il dit, à moins que cela ne lui ait été donné par le Père. Si le père te tire, tu n'as pas besoin de tirer. Si toi, tu dois tirer quelqu'un, c'est si difficile. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'essaye de persuader personne. Je ne veux persuader personne aujourd'hui. Je dis la vérité. Et si le Seigneur ouvre la porte, amen. Si le Seigneur n'ouvre pas, je ne peux rien faire. Je ne peux obliger personne à venir à lui. Nous devons connaître le Seigneur de cette manière. Et à Laodicée, il a dit qu'il est l'Amen. Il est le témoin fidèle. Sommes-nous fidèles? Nous sommes des témoins, certes. Fidèles, je suis moins sûr. Quand la situation est là et tu dois dire la vérité, alors je n'ai pas le courage de dire la vérité. Je ne suis pas un témoin fidèle à ce moment-là. Quand la situation est là, pour témoigner du Seigneur, sans hésiter, je vais témoigner de ce qu'est la vérité, la réalité. Le Seigneur est fidèle. Peu importe si les gens voulaient le tuer, il a toujours dit la vérité. Il n'a jamais eu peur de proclamer la vérité. Et il parlait ce que le Père voulait dire. Ce qu'il entendait du Père, il le proclamait. Le témoin doit être fidèle. Les témoins dans l'Église doivent être fidèles de dire ce que le Seigneur dit. Si tu as peur de dire ce que le Seigneur veut dire aujourd'hui, alors tu n'es pas qualifié d'être un témoin fidèle, un témoin. Fidèle veut dire que nous ne parlons pas nos propres paroles. Nous parlons de ce que l'Esprit veut dire aux Églises, ce que nous avons entendu de lui. Notre bouche, nos lèvres ne doivent que proclamer ce que nous avons entendu de lui. Véritable. Pas seulement fidèle, mais aussi véritable. Ça signifie que tout ce que le Seigneur est la réalité, ce que le Seigneur dit. Il est possible que je dise la vérité, mais je n'ai pas la réalité. Je peux dire, ok. Paul a dit une parole dans Romains, dernier chapitre. Je n'ose pas dire ce que Jésus-Christ n'a pas œuvré en moi. Il n'est pas seulement fidèle, mais il est aussi véritable. Il a la réalité. C'est pourquoi son témoignage est si fort et vivant et agissant. Il a ce parfum de Christ. Une fois, il y a beaucoup d'années, en arrière, dans les années 70, à Los Angeles, il y avait un frère âgé. Il était comme un père pour moi. C'était même pas dans une réunion, mais durant un mariage, il était assis à côté de moi et j'étais à côté de lui. Et au milieu de cela, il a tapé sur ma cuisse. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Et il m'a dit juste une phrase. Ne parle jamais de ce que tu n'as pas expérimenté. Et puis il a continué de chanter. Au milieu du chant, il m'a bousculé. John, ne dis jamais ce que tu n'as pas expérimenté. Et puis il a continué de chanter. Cette phrase, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas oublié. Ce qu'il a dit d'une façon si directe et vivante, l'esprit l'a inscrit dans mon cœur. Pas dans mon intelligence, dans ma mémoire, mais dans mon cœur. Le frère était un témoin véritable. Il n'était pas un homme avec beaucoup de paroles. Il est un parent de Watchmani. C'est le beau-frère, je crois. J'ai entendu très peu de messages de lui, mais le Seigneur m'a parlé par lui. De tels frères, nous en avons besoin dans l'Église. Il ne dit pas beaucoup, mais il est une colonne. Il porte le fardeau. Le témoignage est un. Il est un frère qui prie beaucoup, mais qui ne parle pas beaucoup. Il est une colonne solide. Ainsi, mais brûlant. Nous avons besoin de tels frères dans l'Église, des colonnes, mais aussi des frères qui brûlent, qui sont fidèles et véritables. Véritables. Et le Seigneur a dit qu'il est le commencement. Qu'est-ce que ça signifie d'être le début, le commencement? Le commencement de quoi? Et ce commencement n'est pas juste qu'il est le commencement, mais il est tout. Alors nous devons prendre le début de la livre aux Colossiens, verset 15, je crois. Il est le premier-né de toute la création, parce qu'il est le commencement. Toutes choses ont été créées par lui, Colossiens 1,15. C'est pour lui et par lui. Par lui et pour lui. Tu sais, tu peux, par exemple, lire Genèse 1. Les 7 jours, tu lis le Seigneur est le commencement de la création. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsqu'il dit une parole, mais tout est déjà là quand il a juste parlé. Et il est aussi celui qui a créé toutes ces choses, soutenu par sa parole, par la puissance de sa parole. Il a tenu toutes ces choses. Si ce n'est pas lui qui fait ça, alors tout va s'effondrer. Ça signifie que si le Seigneur n'est plus là, eh bien la vie de l'Église s'effondre. J'ai vu cela. Plusieurs fois j'ai vu cela. Que beaucoup de choses se sont effondrées. Elles s'effritent. Il est tout. Même de la nouvelle création. Il n'est pas seulement le début. Toute la nouvelle création a été suscitée par sa vie de résurrection. Il est le premier-né d'entre les morts. La nouvelle création a été suscitée par la puissance de sa résurrection. C'est si merveilleux. Jean 1 nous dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu lui-même. En elle était la vie. Jean a dit que toutes choses ont été faites par elle. Et sans la parole, qu'il n'y a rien qui a été fait sans elle. Jean a eu une telle vision. Il avait une telle manière d'écrire. C'est unique. On ne peut pas l'oublier. Tu ne peux pas l'oublier, cette parole. Ça n'a pas été créé, elle est devenue. Connais-tu la différence entre ce qui a été créé et ce qui est devenu réalité? Quand quelque chose est devenu, c'est issu de rien. Quand tu crées quelque chose, c'est à partir de choses qui sont déjà présentes. Comme Dieu a dit que la lumière soit, et tout à coup c'est là. Dans la vie de l'Église, tout est suscité par lui, tout est par lui. Il est la source, il est l'origine, il est celui qui a tout planifié. Si je considère toute sa création, frères et sœurs, c'est si merveilleux, il y a tant les fleurs, toutes ces couleurs différentes, les odeurs, toutes ces senteurs différentes. C'est si merveilleux, c'est si magnifique, c'est unique. Tu ne dois pas tellement planifier, nommer et dire quelle couleur, ou ceci ou cela. Nous n'avons pas tellement besoin de temps. Mais le Seigneur dit que la rose soit, et hop, la rose, elle est là. Tu mets de l'eau et tu en ressors le meilleur vin, le meilleur que tu n'aies jamais goûté. Penses-tu que c'est nous qui bâtissons l'Église? J'ai entendu un frère qui disait, où serait l'Église sans mon ministère? Après tant d'années de service, qu'est devenue l'Église que nous les hommes avons bâtie? Elle doit devenir, être. Pas par toi, pas par moi, pas par n'importe quel apôtre, mais par lui. Parce qu'il est l'alpha, il est le commencement. Et en fait, ça veut dire qu'il est tout. Afin que nous ne comprenions pas mal cela, il a dit, je suis le commencement et la fin. Nous n'avons pas besoin de dire cela. Si lui, il est l'origine, eh bien, il est tout. Et si nous nous mêlons à cela, alors tout s'effondre, tout s'écroule. En fin de compte, lorsque nous disons je suis responsable de l'église à Feingen, alors c'est la fin. Non, cela ne doit pas en être ainsi. Il est l'Amen, il est le fidèle, il est le témoin véritable. Il est le commencement. C'est merveilleux, ce Jésus qui marche au milieu des chandeliers d'or, doit être tout. C'est pourquoi ce nouvel homme, disait Paul, que nous revêtons Christ, il est tout. Il est tout et en tous. Il n'y a plus ni juif, ni grec, plus d'allemand, plus d'américain, plus chinois, plus de Souabe, Schwäbisch, c'est la région en Allemagne. Pas de Suisse, pas de Français, pas de Coréen, il n'y a plus rien. Mais Christ est tout et en tous. C'est la réalité qui doit nous habiter en tant que l'expérience. Nous devons être remplacés. C'est pourquoi j'accentue cela. Comme Clémence l'a accentué, c'est si nécessaire, ce service sacerdotal, ces merveilleuses fêtes que nous célébrons aujourd'hui en réalité, c'est un tel salut pour nous, chaque semaine et de manière quotidienne, chaque jour du Seigneur, nous tenons cette fête. Cela doit nous rappeler ces 6 jours à venir. Devons aussi nous rappeler de cette merveilleux pain de vie que dont vous, de, nous devons nous nourrir. Que vois-tu lorsque tu contemples ces cheveux blancs? Pas seulement la couleur blanche, mais pourquoi est-il l'ancien des jours? Non pas ce qui soit vieux, non. Je n'ai pas des cheveux blancs, j'ai des cheveux gris. On dirait que c'est blanc, mais c'est gris. Dans les proverbes, il est écrit des cheveux gris, des cheveux d'argent. J'aurais le souhait d'avoir des cheveux d'argent, mais mes cheveux tombent. J'ai des cheveux gris, non. Mais si, même si ce sont des cheveux gris, ça signifie qu'on admet qu'il est plus sage que les jeunes qui sont inexpérimentés. Mais le proverbe nous dit qu'il y a une condition. Il est sage seulement s'il marche dans la justice. Ces deux détails de ce verset dans Proverbe 16, ne veut pas les oublier. Certains ont les cheveux gris et ils ont des voies détournées, des voies tortueuses. Ça, c'est pas la sagesse. Mais le Seigneur est le plus sage. Une telle sagesse est illimitée. C'est pourquoi il est le merveilleux conseiller. L'Esprit, dans Ésaïe chapitre 11, est aussi un conseiller. Le Seigneur est un merveilleux conseiller. Tu peux lui demander, tu dois lui demander la sagesse d'en haut, qu'il te la donne. Notre sagesse pour lui, elle est tombée, elle est déchue. La sagesse des hommes, dans Corinthiens, il l'a dit, c'est de la folie devant Dieu, c'est une folie. Nous pensons que nous sommes si sages. Mon Dieu, nous sommes vraiment des vierges folles. C'est pourquoi nous avons besoin de recevoir cette sagesse du Seigneur. À Zurich, s'il y a un problème, dis-lui, dis au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas sage. Je ne sais pas comment gérer ce problème, mais tu es le sage, tu es l'ancien des jours. Je ne suis pas celui qui est qualifié à Zurich. Que ça veut dire être qualifié? Mon langage allemand est si limité, vous voyez, je n'ai pas de sagesse. Même un mot comme ça, je ne comprends pas. Mais le Seigneur, il est, peu importe, il est celui qui est qualifié. Va vers lui. Nous avons besoin de lui. Lui, sa sagesse est illimitée, elle est pure, pure, vivante, vivante, pleine de salut. Tout ce qui vient des cieux est si pur. Et ce n'est pas vieux, regarde, un agneau. Certainement en Europe, vous avez beaucoup d'agneaux. Avez-vous des agneaux? Avez-vous vu des agneaux? À moins que ce soit un agneau noir, mais cet agneau noir va rester noir jusqu'à sa mort. Mais un agneau qui est né, lorsqu'il est né, il naît blanc. La laine d'un agneau ne veut pas dire que c'est vieux, mais ce blanc. Blanc parce que c'est plein de vie, c'est issu de la vie, de la naissance. Non pas parce qu'elle est devenue vieille, mais le Seigneur utilise l'agneau pour le salut. Quelle sagesse, chers frères et sœurs, quand Paul parlait de ce grand salut de l'Évangile, à la fin, il a dit, quelle sagesse, combien de sagesse. Quel salut par sa sagesse. Nous avons un tel Fils de l'homme merveilleux qui marche au milieu du chandelier. Louons le Seigneur. Et j'espère que par cette communion avec vous, l'Esprit va œuvrer pour nous ramener au point brûlant, à la volonté de Dieu, au plan éternel de Dieu, afin que nous ne soyons pas détournés d'une manière ou d'une autre. Et en fin de compte, nos œuvres ne seront pas reconnues. Cela ne doit pas en être ainsi. Que le Seigneur nous donne sa miséricorde et sa grâce. Le temps est passé, loué le Seigneur. Amen. Louons le Seigneur. Amen. Nous nous reverrons d'une manière ou d'une autre. Louons le Seigneur. Je vois une sœur, tant de frères et sœurs. Le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Louons le Seigneur. Je vais regarder qui est là. Je vois Shirley, Mo, beaucoup d'autres.